6h45, vous écoutez France Culture. À votre santé, cher Xavier Martinet.
À la vôtre, Jacques Meunier.
Ouvre une bouteille d'eau. Eh bien oui, c'est l'heure des enjeux internationaux, avec au sommaire aujourd'hui la géopolitique de l'espace, l'expédition donc chinoise sur la face cachée de la Lune.
Eh oui, on reparle de cette Chine, première nation donc à envoyer un objet sur la face cachée de la Lune dans la nuit de mercredi à jeudi avec la sonde Chang'e 4. 50 ans donc après les missions Apollo, Pékin découvre un nouveau continent lunaire et se positionne peut-être pour un leadership spatial. On en parle avec vous, Isabelle Sourbès-Verger, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes géographe, chercheuse au CNRS, au Centre Alexandre Coiré. Bien sûr, spécialiste des questions de géopolitique de l'espace. Votre livre, on le mettra en ligne, Un empire très céleste, la Chine à la conquête de l'espace. Alors là, on a la première photographie, le déploiement du rover, le robot à roues hier. Reste à mener les expériences, mais c'est déjà quand même une grande réussite pour Pékin, diplomatique aussi, puisque ni Russie ni USA n'avaient exploré cette face. Alors, Isabelle Sourbès-Verger, si la Chine avait déjà prouvé qu'elle était une puissance spatiale, on peut dire qu'elle réussit là sa première conquête spatiale ?
Oui, tout à fait. Et elle se fait reconnaître, et c'est quand même beaucoup son objectif, comme un partenaire majeur de l'activité spatiale. La Chine affiche plus aujourd'hui le rêve chinois et la réalisation du rêve chinois dans tous les domaines qu'elle ne pose réellement une compétition directe avec les anciennes puissances spatiales, les plus anciennes puissances spatiales, même si aujourd'hui le ton du discours ambiant en Chine est quand même très, très patriotique et incite beaucoup sur la fierté nationale. Mais dans le domaine spatial à proprement parler, l'idée c'est de se tailler une place particulière et de réussir à trouver sa niche.
Alors juste pour prendre d'abord la mesure de l'enjeu et l'exploit, on pourrait dire scientifique, qu'est-ce que ça représente d'abord ? C'est une mission qui est plus complexe, on pourrait dire, que les alunissages précédents quand même, puisque invisible. Il a fallu plusieurs envois, oui.
Invisible directement, on va dire, parce que en réalité, c'est une sonde automatique qui a tout un système de navigation, mais le problème, c'est la communication avec cette sonde, d'où la nécessité de développer un satellite de télécommunication particulier qui soit à un point d'équilibre, dit-on, c'est-à-dire un point qui permet à la fois à la Terre et à la Lune, sur la face cachée, d'être directement en contact.
Oui, et ensuite, sur l'apport scientifique, il y a beaucoup d'expériences qui vont être faites, hein, des expériences d'observation puisque le ciel est libre d'interférences, et puis des expériences géologiques et biologiques. Est-ce que là, ce sont des expériences vraiment novatrices, très importantes pour la suite qui vont être menées ?
C'est intéressant pour la communauté scientifique. Je dirais que ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est ce qui est à venir, c'est-à-dire le retour d'échantillons de cette face de la Lune. Parce que là, effectivement, ce seront les seuls échantillons qui seront disponibles dans le monde. Et il n'y a pas à douter de l'intérêt des multiples équipes scientifiques qui demanderont aux Chinois des échantillons. Et ça se rappellera les grandes missions Apollo qui avaient ramené plusieurs kilos d'échantillons et les missions russes Luna, qui avait ramené quelques centaines de grammes, mais qui avait quand même donné, je dirais, à la science soviétique, à ses publications, une aura assez importante. Et donc là, l'ambition chinoise, ça va être effectivement d'apparaître dans des publications de très haut niveau, et cette mission, elle est prévue pour l'année prochaine, et c'est le complément de la mission actuelle.
Oui, c'est ça, la mission Chang'e 5 qui avait été reportée. Il y aura aussi Chang'e 6, ce qui veut dire que les premières lunaires, premières lunaires seront encore chinoises. Qu'est-ce qu'il en est, selon vous, des dividendes médiatiques jusqu'ici, hein ? Autant Apollo, c'était des missions quand même ultra médiatisées. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression que ce soit extrêmement célébré par les agences spatiales mondiales, cette première.
Les agences spatiales ont félicité parce que effectivement c'est de bonnes guerres, c'est pas le mot. Je pense qu'il y a réellement une solidarité des agences spatiales qui sont très conscientes de la complexité de la mission. Par ailleurs, la sonde emporte des instruments internationaux, hein. Il y a des instruments européens à bord de la mission, et donc il y a une solidarité scientifique, on va dire, qui l'emporte sur l'affichage du prestige national dans ce domaine. En même temps, l'intérêt pour la Chine, c'est effectivement sur le plan national comme sur le plan international, de démontrer qu'elle est bien présente à la une de l'actualité. Et plus les médias américains relayeront la nouvelle, plus la Chine elle-même relayera les médias américains en train de célébrer ces avancées.
Oui, en tout cas, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, elle a bien célébré, parce qu'il y a des instruments néerlandais, suédois, allemands, même de l'Arabie saoudite, je crois. Qu'est-ce que ça révèle alors, on pourrait dire, cette mission des atouts chinois dans la capacité spatiale? On peut lire notamment là qu'elle a un programme, disons, très suivi depuis 1999, et très suivi parce que très régulier dans le calendrier. C'est un peu ce que disent de nombreux analystes, c'est là sa principale force, cette capacité à suivre le calendrier.
Sa principale force, c'est surtout d'avoir un calendrier qui va dans la durée et qui n'est pas remis en cause par les alternances politiques. Parce que c'est quand même ça le gros problème de la politique spatiale américaine en particulier, qui subit les va-et-vient et les intérêts, voire les foucades des présidents. Et effectivement, si vous prenez le programme de la NASA, Obama avait décidé qu'on ne revenait plus sur la Lune, que c'était quelque chose qui était derrière et que maintenant il fallait se tourner vers l'avenir. Là où finalement Trump aujourd'hui va célébrer très bientôt, enfin quand ce sera le cas, la première mission circumlunaire habitée, mais qui est prévue pour post 2020, l'armement 2020. Donc voilà. Et la Chine, elle a des plans quinquennaux, et puis elle a même maintenant une vision en quelque sorte qui est annoncée jusqu'en 2040 et dans lequel elle aligne effectivement les grandes réussites, y compris une base lunaire.
C'est ça, et avec un secteur spatial qui emploie aujourd'hui à peu près 200 000 personnes, quasiment autant qu'aux États-Unis. Alors c'est intéressant, justement, vous disiez pas de compétition, mais est-ce qu'il n'y a pas, jusqu'en 2030, au moins, date du retour prévu humain des États-Unis sur la Lune, et puis ce Moon Village de l'Agence spatiale européenne éventuellement, une opportunité, une fenêtre d'opportunité pour la Chine, seule présence nationale, voire humaine, sur la Lune dans l'espace? Je crois que c'est 2036 le retour chinois sur la Lune, l'arrivée chinoise humaine sur la Lune.
Oui, je pense que pour les Chinois, c'est vrai que l'actualité internationale, elle est quand même très importante, parce que la décision d'envoyer un homme sur la Lune, ça dépend aussi du contexte dans lequel cela se fera. Si on imaginait qu'il y ait une mission martienne internationale et que la Chine y soit conviée, ce qui est vraiment de la science-fiction politique, on va dire, dans l'état actuel des choses, mais si on pensait à une proposition pareille, il y a de fortes chances que la Chine se montre plus intéressée par ce type de partenariat que par le fait de revenir toute seule en envoyant un homme sur la Lune, vous voyez. Ouais. Donc c'est assez compliqué, parce que c'est un dosage de fierté nationale qui peut être affiché au travers du fait qu'elle est la seule à réaliser quelque chose. On a de toute façon cette situation qui va se produire avec la station spatiale, puisque théoriquement la station spatiale internationale s'interrompra au moment où la Chine aura développé la sienne, mais là on est à quelques centaines de kilomètres autour de la Terre. Et le monde occidental, globalement, sous leadership américain, est en train de tourner autour de la Lune pendant que la Chine est en train de tourner autour de la Terre. Bon, la gestion médiatique est quand même importante dans ce genre de programme, sera un petit peu plus compliquée pour Pékin.
Oui, avec un programme, vous l'avez souligné, quand même très étendu jusqu'en 2045, pour lequel la Chine a prévu éventuellement de tripler son budget, qui est actuellement de 6 milliards d'euros. Alors, est-ce que ça veut pas dire qu'elle serait capable d'y aller quand même toute seule?
De toute façon, la Chine, elle a pris l'habitude d'y aller toute seule, parce que depuis le début de son programme spatial et depuis la fin des années 90, elle n'a finalement aucun partenaire affiché dans le monde occidental. Elle a des partenariats ponctuels, elle a un partenariat plus ou moins général avec la Russie, mais avec les États-Unis, il y a une vraie difficulté liée au transfert de technologie. Maintenant, c'est vrai que la Chine, de son côté, ce qui est important pour elle, c'est de trouver, c'est ce qu'on disait dès le début, de trouver des moments et des possibilités de démontrer qu'elle acquiert des nouvelles compétences qui la feront reconnaître dans le monde international. Oui. Et son budget, même si, comme vous le dites, il augmente, on est quand même encore très 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 loin du budget américain, puisqu'il y a 40 milliards de dollars qui est dépensé tous les ans par les États-Unis si on cumule les dépenses spatiales, civiles et militaires, là où la Chine arrive effectivement à 6 milliards ou 7 milliards de dollars. Et imaginer la courbe cumulée, le hiatus de l'investissement fait dans le domaine spatial entre la Chine et les États-Unis est énorme.
Oui, effectivement, même avec un budget triplé, ça ne ferait que 18 milliards de dollars. Il y avait aussi un aspect peut-être normatif, ce fameux espace Terre-Lune avec possibilité de juridiction dessus, mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler cette année. Merci beaucoup en tout cas pour vos explications ce matin, Isabelle Sourbès, Verger du Centre Alexandre Coiré au CNRS. On renverra à votre livre sur le site de France Culture, Un empire très céleste, la Chine à la conquête de l'espace. C'était il y a 10 ans et aujourd'hui 2018, la Chine sur la Lune 2019. Merci, au revoir.